Bonjour et bienvenue à Tarte Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis l'américain de ce groupe d'amis réunis par rugby et franchement je suis super content de retrouver tout le monde. Salut tout le monde!
Salut TK!
Salut TK!
Alors si vous ne connaissez pas notre pack de pod, on va présenter tout le monde, donc notamment Charlie Baer que j'ai joué avec à Ocean Rugby Club. Salut Charlie!
Coucou TK! Ouais, j'ai eu la chance, le privilège de jouer à tes côtés. Moi je continue à jouer toujours en deuxième ligne au Massif Central dans le 13e arrondissement de Paris, en fait 3.
Exactement, et on a notre deuxième ligne qui mesure 2 mètres, hein, ça va tous en deux. Théodore Saint-Rémy, ancien de Racing.
Oui, c'est ça, du Racing, mais pas seulement, hein. Du Racing, du PUC aussi, Rugby Club Orléans et l'ACBB qui était le club de mes débuts. Tout ça avec beaucoup de copains, beaucoup de souvenirs, et moi maintenant je suis éducateur. En U12.
Et on voulait une autre voix, un peu différente que le nôtre, donc on a invité Alban Borel des Pink Rockets. Salut Alban!
Hello les gars, effectivement je suis toujours au Pink Rockets cette saison, on a repris le chemin des entraînements et je suis très heureuse de vous retrouver également ce soir.
Oui, ça fait longtemps que depuis qu'on est tous ensemble et vraiment ça fait super plaisir, mais pendant cette période de Covid, on est très 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 busy, n'est-ce pas Charlie?
Bah absolument, bon, on espère que cette période touche à peu près à sa fin, on est tous en train de se reprojeter vers une nouvelle saison sportive, mais c'est vrai que cette période a été super compliquée, donc de se voir tous les quatre, on n'avait pas toujours de match à commenter, mais on a su s'occuper, on a su se renouveler. Ceux qui nous suivent de près ont pu voir qu'on s'est lancé dans les interviews, qu'on a eu la chance d'avoir Patrick Tobacco, qu'on a eu la chance d'avoir Serge Betsen, entre autres, du beau monde. On a aussi revu des vieux matchs, on a revécu le match de 99 ensemble, dans nos rugby games classiques. On a aussi un peu parlé de nos joueurs préférés. On a fait le 15 de rêve de France, le 15 de rêve international. On s'est pas mal diversifié. On a évidemment hâte de commenter à nouveau des matchs, de donner à nouveau nos avis sur du rugby pur, hein. Mais en tout cas, on a créé beaucoup de contenu. On a essayé de continuer à parler de rugby, même si rugby, il n'y avait plus.
Et on a plein de gens qui nous ont écoutés quand même, Thierry.
Exactement, exactement. Donc en fait, ça fait un an maintenant depuis qu'on a démarré notre podcast. Et vraiment, je voulais dire merci à tout le monde. Merci d'être là avec nous. On a eu plus de 36 000 d'écoutes pendant cette période. Vous êtes plus de 1 000 qui nous écoutent tous les semaines. Donc merci, merci énormément d'être là. Partagez bien sûr sur les réseaux sociaux les épisodes et toutes ces bonnes choses. Donc ça fait sympa d'avoir un an.
Mais oui, ça nous rajeunit.
Ça fait plaisir. Surtout toi, Théo.
C'est ça. Merci. Merci, Alban. C'est vrai.
Ouh, ça démarre chaud.
C'est un plaquage, ça.
Allez, les gars, on démarre avec cet épisode parce que c'est quand même la rentrée. On va parler de, en fait, tout ce qui est rugby parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé vraiment des matchs et des joueurs et des équipes et tout ça. Bah, j'ai pensé que ça serait bien de faire un peu le. Pas mal de faire le point sur toutes les différentes équipes et tous les différents rugby qu'on adore ici à Pack the Pot. Donc, on va parler de 15 de France, on va parler de top 14, bien sûr, du rugby féminin, du Sevens, de Major League Rugby aux États-Unis, plein de choses, et bien sûr, les matchs à venir bientôt. Et pour démarrer, on va parler de 15 de France. Normalement, on va voir un match en octobre, n'est-ce pas, Théo?
Oui, on espère. On est suspendu aux déclarations des autorités compétentes, hein, on va dire. Normalement, 31 octobre, on devrait voir France-Irlande, qui était le match qu'on s'apprêtait à voir, qui devait être la finale du tournoi Destination au printemps dernier, et qui avait été reporté. Alors, est-ce qu'il va se jouer? Dans quelles conditions est-ce qu'il va se jouer? Malheureusement, tout ça reste incertain aujourd'hui, mais on serait super heureux de voir ce tournoi Destination en plein milieu du mois de novembre, de l'automne, on va dire, pardon, au tout début du mois de novembre. On attend de savoir.
Et cette match, c'est quand même le match de victoire, parce que la France, on est deuxième, il y a l'Angleterre qui va jouer contre l'Italie, il me semble.
Oui, donc ce sera un vrai duel à distance, puisque la France doit battre l'Irlande de plus de points que l'Angleterre battra l'Italie. Et là, ce sera un vrai challenge pour nos Bleus.
Autant dire que ce n'est pas gagné.
Effectivement.
Voilà. Donc nous, ce qui va nous plaire, c'est de voir ce match France-Irlande avec de l'enjeu malgré tout, avec un enjeu bon à distance, un enjeu avec une grosse interruption de temps et une probabilité assez faible, hein, parce que c'est vrai que les Italiens sont quand même partis pour prendre une grosse raclée contre les Anglais. Nous, si on bat les Irlandais, on sera quand même contents. déjà.
Oui.
Et c'est ça l'enjeu, c'est d'aller battre les Irlandais à Paris et de faire un beau tournoi.
Oui, parce qu'après les années, vu nos derniers tournois et les habitudes de non-victoire qu'on avait sous Brunel, entre autres, où, enfin, on a quand même connu des belles années noires avec
C'est
la
beau,
France.
c'est beau. Ouais, je trouve ça assez sympa, honnêtement. Ouais,
ouais, t'as vu, c'est la novlangue. La novlangue, c'est pas une défaite, c'est une non-victoire. Ça n'a rien à voir.
Ah, Charles,
C'est les
c'est pas
nouvelles défaites
possible.
encourageantes, tu sais. Non, mais c'est vrai qu'arriver deuxième à son destination, enfin, en janvier, j'aurais acheté sans problème, hein, vu ce qu'on attendait de Galtier, vu ce qu'on attendait de cette nouvelle équipe. Voilà quoi. Vous vous souvenez que quand on en parlait avant, quand même, on avait un peu peur de la jeunesse de cette équipe et on se demandait s'ils n'allaient pas se faire manger tout cru par les Anglais. Et puis on a eu un super tournoi et arriver deuxième, c'est quand même vachement bien au vu des performances du 15 de France d'avant.
Ouais, et malheureusement, c'était les Écossais, les hommes en kilt, comme il a dit Théo dans notre podcast après ce match, qui nous a battus.
Il me semble que hors micro, il avait dit les salopards en kilt. Mais...
Alors, de mon côté, la mythologie familiale fait état d'origines écossaises, donc je ne peux pas dire ça. Rappelons-nous que
oui,
les Français s'étaient quand même pris les pieds dans le gazon de Murrayfield de manière complètement foireuse.
Oui.
Et que ça nous avait. Relativement gonflé à l'époque, sans parler d'une panse de brebis.
C'est vrai.
Mais ceci est un autre débat.
On a quand même d'autres matchs à venir avec le 15 de France, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas contre qui et on ne sait pas à quel moment, n'est-ce pas?
c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop. Déjà, dans l'absolu, il y a un doute sur tout ce qui va arriver. Mais là, on sait que le Japon ne fera finalement pas partie de la partie. Pas, ne fera. Ça se tient.
C'est beau aussi, pas partie de la partie, ça va.
Ouais, pas partie de la partie. Mon Dieu, je fais des trucs intelligents sans me rendre compte. Je fais des haïkus, tu vois. Et non, on sait que le Japon ne viendra pas, mais c'est vrai que donc, peut-être la Géorgie, on parle, on ne sait toujours pas. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ces rencontres, mais en soi, nous, on achète. Hein, je veux dire, un mini tournoi à 8 équipes comme ça en plein milieu du mois de novembre, on serait ravis de retrouver notre 15 de France et de suivre ça avec intérêt.
Moi, j'y crois difficilement quand même, hein, mais bon, je ne veux pas être pessimiste.
Honnêtement,
mais...
moi aussi, j'ai du mal à mettre une pièce. Ouais. À ce stade, déjà, si on pouvait avoir une journée de top 14 la semaine prochaine, une la semaine d'après, et allez, un France-Irlande le 31 octobre, moi, déjà, je serais content.
Voilà. Ok. On avait un peu d'autres nouvelles sur l'équipe de France aussi, notamment notre ami Jefferson Poirot, qui a pris sa retraite assez jeune quand même.
Ouais, pour moi, c'est quand même une grosse surprise parce que c'est un garçon qui a marqué quand même, je trouve, avec son arrivée chez les U20 d'abord. Et il avait fait des matchs vraiment prometteurs comme futur joueur senior. Et il a tenu ses promesses en étant un joueur cadre. Et je trouve qu'il s'en va extrêmement jeune. Tout ça pour continuer à jouer avec son club. Et en plus, je crois que cette histoire de retraite, c'est toujours un peu choquant. Quand tu joues, en fait, a priori, tu es disponible pour ta fédération. Je me rappelle de joueur un peu, bon, ok, un peu réac, un peu vieillot, d'entraîneur, Giroud qui disait, mais non, on ne peut pas arrêter la sélection. Hein. Si on joue, on est sélectionnable, point. Et je n'irai pas jusque-là, mais je trouve que là, sur Jefferson Poirot, c'est étonnant. Et ça sent un peu le mec qui va finalement remettre ça en cause et revenir. Voilà. Je trouve que c'est un peu désolant. Aujourd'hui, il n'a que 28 ans, ce garçon-là.
Mais non, mais il avait aussi, c'était accompagné aussi d'idées où il avait quand même beaucoup dit qu'il se retrouvait plus trop, qu'il avait eu un peu des soucis avec des joueurs de l'équipe de France là, pendant la dernière Coupe du Monde et qu'il se retrouvait pas trop, plus trop avec
l'esprit d'équipe.
Avec l'esprit de certaines personnes, quoi. Donc.
Ouais. Moi, ce qui me surprend, c'est que je trouvais. Bon, d'abord, avant tout, quand on s'appelle Jefferson Poirot, moi, je valide. J'adore ce nom. Voilà, je l'avais vu, je l'avais repéré jeune, j'adore ce nom. Et donc, ça me désole qu'il ne soit plus là. Rien que pour ça, parce que je trouve que ça égaye mes oreilles quand j'entends son nom qui est dit à la télé, j'adore. Et je trouvais qu'il avait le profil d'un gars qui fait une carrière longue et qui marque un peu de son empreinte une génération.
Une génération.
Et il a déjà un statut de cadre, cette Coupe du Monde qui a été bon, finie en queue de poisson, mais il l'a quand même faite, qu'il n'ait pas envie de faire la Coupe du Monde 2023 en France quand il aura 31 ans, c'est quelque chose qui m'échappe complètement.
Ouais,
je n'arrive absolument pas à m'expliquer ça. Mais il a sûrement ses raisons, ça se respecte, mais...
Pour moi, je me posais la question, bah, il n'est pas sûr d'être pris non plus. Et donc, dans un sens, il peut faire le travail pendant 3 ans, pour après, il aura 31 ans d'être pilier et d'être pris pour un autre. Donc, je peux comprendre, mais tous ces miles sur son cou et sur son dos et tout ça, peut-être il a envie de faire ça en club. Je peux comprendre.
Ouais, après, on joue pour ça même, aussi, quoi.
Là, ouais, non, parce que oui, c'est... Ah oui, non, ça, je rejoins plus ce que disait Théo dans le sens où... Enfin, en citant Giroud, mais normalement, tu joues pour être au meilleur niveau que où tu peux jouer. Le meilleur niveau, c'est l'équipe de France. Et 31 ans, enfin, c'est pas un raté que d'avoir cravaché pendant 4 ans pour atteindre pour être dans le groupe pour une Coupe du Monde et t'es pas y être. C'est pas un échec.
Alors, est-ce qu'on peut faire les vieux cons, puisque Alban a souhaité rappeler que j'étais le seigneur du groupe, en disant que c'est révélateur de cette jeune génération, peut-être, qui joue. Plus ouais. Sa carte personnelle dans une société plus individualiste. On n'est plus sur les trucs à l'ancienne, les grandes tournées où on part 3 semaines, on découvre le monde, on se crée son histoire. Non, là, c'est plus... On joue plus à la belote dans le quart, on regarde des séries, quoi. Et donc, à un moment, quand on a un peu mal partout, on décroche, on dit l'équipe de France, c'est plus pour moi.
Oh, après, alors... je pense que même dans cette optique-là, même dans une optique un peu... c'est vrai que les matchs internationaux, les tournées, tout, c'est plus du tout ce que c'était avant. Mais je pense que dans cette optique, même individualiste et égoïste, au contraire, l'équipe de France, c'est un truc... Enfin, c'est une vitrine pour un joueur. Enfin, c'est un truc... Dans l'idée de... Et je ne dis pas que c'est vrai, mais dans l'idée où ce serait une démarche un peu trop personnelle et trop égocentrée, non, au contraire, je pense que l'équipe de France, c'est ce qui te met en avant. Enfin,
moi, je conclurais volontiers ce chapitre par une phrase simple. Jefferson revient.
Oui, voilà.
Voilà. Moi, j'ai envie de le revoir. Là, on dit des trucs... Peut-être qu'on dit des trucs faux, on ne le connaît pas, ce garçon, etc. J'aimais le voir jouer, j'aimais bien ce mec. Ça me désole qu'il s'en aille. Donc, s'il te plaît, si tu écoutes le pack de potes, Jefferson, please come back.
Bah, ouais.
Bon, Jefferson, si vous voulez venir aussi pour parler un petit peu et donner votre avis, on est là pour vous.
Confessions intimes.
Dites-nous tout.
On a quand même d'autres news générales. On va dire, en fait, il y a un nouveau truc et ça s'appelle le National. Alors, le national est là, mais c'est quoi en fait le national?
Allez, Charlie, allez.
Non, mais ça fait partie de ces solutions magiques. Il y a une grande problématique en fait entre le rugby fédéral et la Pro D2. Ils ont beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de clubs qui sont compétents, mais qui n'ont pas forcément les reins assez solides pour après jouer en Pro D2. C'est une sorte de division un peu tampon en fait qu'ils essaient de mettre en place.
La pérennité, c'est. Ouais.
C'est une division plus restreinte. C'est une division plus restreinte. Est-ce que ça voudrait dire que ceux qui sont en national sont ceux de la Fédérale 1 qui, grosso modo, peuvent ambitionner réellement un projet pro des deux? Je trouve que ça ressemble
c'est
à ça.
Hein, oui.
On dirait que c'est ouais. Ça. Sauf qu'il y a là-dedans des équipes dont la surface économique ne me paraissent pas monstrueuses ou la concurrence locale très forte. Hein, quant à Aubenas, Blagnac, Cognac, bon, très bien. Ces équipes-là en Pro D2, est-ce que ça peut tenir la route du point de vue du bassin économique qu'il faut pour soutenir aujourd'hui une équipe de ce niveau-là? Je ne sais pas.
Il me semble que Bourgoin et Dax, ils étaient quand même à très haut niveau. Ils étaient en top 16, non niveau,
oui, ils l'ont été, mais c'était une autre époque. Ouais. Parce que le temps passe pour tout le monde, n'est-ce pas?
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Jalieu, c'est un bled. C'est-à-dire que pendant très longtemps, cette équipe qui a même été en finale de championnat de France, qui avait perdu contre le Stade Toulousain, à la grande époque de Bourgoin, aujourd'hui ce sont des villages. Voilà, Dax c'est une petite ville aussi, il y a déjà beaucoup de clubs autour dans les Landes, donc économiquement c'est compliqué. C'est-à-dire que tu y arrives, à un moment tu as un mécène, tu montes ton truc, et puis quand le mécène s'en va et que tu as 2-3 mecs qui se pètent, et puis pas de bol, et puis le terrain gras et le voisin d'à côté qui d'un seul coup est plus malin que toi.
À trouver un mécène aussi.
Ben, c'est la cata, et à trouver un mécène plus malin ou plus ambitieux, c'est compliqué. Donc,
ouais,
c'est,
la durabilité du modèle est assez...
Ouais, c'est, voilà.
Ça peut durer sur 1 ou 2 ans, quoi, mais après ça peut...
Donc est-ce que demain, un Dax ou... Alors on a Suresnes en Ile-de-France, c'est sympa, parce que Suresnes c'est une équipe à potentiel, qui a une histoire avec une magnifique école de rugby depuis très longtemps, etc. Mais est-ce que demain, voilà, un Bourg-en-Bresse, un Chambéry ou un Suresnes a les moyens de figurer correctement en Pro D2.
Et, ok, donc j'ai aussi vu qu'il y a une élection bientôt pour les FFR.
Ah oui, bientôt, très bientôt, et c'est même quelque chose qui a surpris parce que la date a été maintenue au 3 octobre, alors que la liste d'opposition avait demandé le décalage à cause de l'interruption de la campagne pendant le Covid. Ce qui est intéressant sur cette élection, je trouve, c'est qu'on a deux projets qui se font face avec le projet sortant et un challenger qui sont, on va dire, assez différents, puisque le projet sortant, avec Laporte, ses défauts, ses qualités et sa culture du haut niveau, a toujours envie de pousser plus loin la visibilité du rugby, le sport business, en espérant faire redescendre de la valeur ajoutée sur le monde amateur. Le camp d'en face, c'est plutôt on repart du monde amateur, on écoute le monde amateur, et c'est avec ça qu'on arrivera à avoir un socle super costaud pour l'équipe de France et pour le rugby professionnel. Donc je pense que ces deux écoles, ça va être intéressant. Je crois que la semaine dernière, il y avait Bernard Laporte dans le middle et demain, il y a Florian Grill dans le middle. Donc si ceux qui ont envie de se cultiver sur le sujet, n'hésitez pas à acheter le journal jaune. Vous verrez les programmes, les machins, etc. Et ce qui est certain, c'est que ce serait quand même un peu un séisme que Bernard Laporte soit battu. Par Florian Grill, qui était un inconnu il y a quelque temps. C'est le patron de la Ligue de rugby d'Île-de-France, Florian Grill, donc pour beaucoup de gens, c'est pas un inconnu. En revanche, il n'était pas connu du grand public. Donc voilà, très intéressant et à voir après le 3 octobre.
Il a quand même une qualité majeure, ce garçon-là, c'est que c'est un ancien deuxième ligne, donc c'est peut-être que quelqu'un de bien.
C'est un ancien deuxième ligne,
tu vois, ça revient,
c'est
ça
un
revient
ancien
tout le temps,
de la CBB,
hein.
C'est un ancien du PUC, bon, on peut pas lister toutes ses qualités.
Non, il a un nom sympa à prononcer aussi.
Ouais, alors j'ai trouvé assez marrant parce que dans la campagne qu'il fait cet été, il a fait une tournée des barbecues, ouais. Que je trouve assez drôle pour un mec qui s'appelle Grill. Si, c'est assez marrant.
Pas mal.
Pack de potes, Terra 10.
Allez, si on parlait de top 14 rapidement, donc si on regarde par rapport à les équipes et des changements, bon, j'ai regardé rapidement et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de changements de joueurs d'un club à l'autre. Quelles sont des grandes nouvelles que vous avez notées, les gars, par rapport à des transferts, des choses comme ça?
C'est un transfert de coach qui nous intéresse, puisque c'est le retour de celui qui nous avait obtenu le dernier titre en 2015, Gonzalo Quesada is back in Panama.
Le roi Quesada.
Ouais, et ça nous fait bien plaisir.
Oui, effectivement, c'était soit un transfert de coach, soit un transfert de virus qui nous intéressait particulièrement dans cette équipe.
Ouais, auréolé Quesada d'excellents résultats avec la province argentine des Jaguares dans le super rugby. Là. Donc effectivement, c'est très bonne pioche. Mais enfin, c'est pas lui qui joue, les gars.
Surtout s'il n'a pas de joueur.
Comment ça se passe, Alban, au Stade français? T'as des échos de l'intérieur un petit peu? Parce que et là, virus, pas virus, des mecs suspendus, des mecs avec des pépins pulmonaires liés à... etc.
Écoute, je t'avoue que j'ai pas d'insight particulier sur le club, enfin sur les professionnels en tout cas, mais tu te doutais bien que c'est assez... la communication sur ce genre de choses est assez restreinte et conservée. Ouais. Mais non, il y a un peu plus de 25 cas de Covid, dont certains premières lignes qui ont des lésions pulmonaires. Donc c'est là où ça devient, enfin on va dire, la majorité des joueurs et des coachs et des membres du staff aussi, qui n'ont pas de symptômes. C'est souvent d'ailleurs le cas chez des gens positifs. Hein. Il y a Benoît Paire qui a été testé positif aujourd'hui au Covid. Je ne suis pas sûre qu'il ait beaucoup de symptômes pour l'instant, mais en fait, c'est la vulnérabilité de certains joueurs. Et quand ça commence à toucher au poumon, bah effectivement, ça pose des questions médicales assez, assez importantes. Et puis derrière, bah, c'est les enjeux économiques aussi qui sont liés aux matchs amicaux, retour du public, enfin retour des matchs et du coup retour du public dans les stades. Enfin, voilà, il y a vraiment une sorte de boule de neige, enfin d'effet boule de neige qui découle de l'arrêt des matchs et on en revient là, quoi. Donc pour le Stade français, c'est un peu compliqué. Il devait jouer contre l'UBB ce week-end et ça a été annulé. C'est un vrai, pour le coup, même chez les joueuses, c'est très pris en charge. On est obligé de faire des tests toutes les... Enfin, une force à faire des tests là, avant la reprise des matchs qui sont ce week-end, enfin le week-end prochain. Mais bon, après, une fois que ça se propage, c'est comme... Enfin, là, il y a beaucoup de sportifs qui l'ont, et c'est alors que c'est quand même des gens qui sont testés régulièrement, qui sont suivis. Donc bon, si même eux se font tester positivement, c'est compliqué à suivre.
Personne n'est à l'abri.
On les souhaite bon rétablissement quand même.
J'avais un petit coup de gueule contre le Covid au Stade français parce que, figurez-vous, parlons un peu de moi. On devait faire un stage de pré-saison à Jambouin parce que Thomas Lombard, adorable, avait invité notre équipe parce qu'on est évidemment à Paris, parce que notre école de rugby est en entente avec l'école de rugby du Stade français. Vous n'imaginez pas comment pendant un mois je badais de passer un week-end de rugby à Jambouin. Et ce salopard de coronavirus est passé par là. Et
c'est moche,
ça n'a pas été Jambouin.
Du coup, malheureusement pour toi, tu as atterri à Marcoussis.
On était évidemment très heureux d'avoir atterri à Marcoussis. Aussi, mais quand même, j'en moins. En plus, j'aurais sûrement serré la paluche à Papé et tout. Je me serais plus jamais lavé les mains de ma vie. Ça aurait été le plus beau moment de ma vie. Ça aurait été un climax de ma vie. Mais bon, voilà. Tout ça est gâché à cause du. Bon, je sais que d'autres en pâtissent aussi hein, du coronavirus. Mais voilà, moi, c'est. Voilà.
Mais toi d'abord.
Mais ouais. Moi d'abord, évidemment. C'est quand même, oui, oui, c'est grave. Le monde s'arrête. Mais je suis pas allé à Jambouin quand même, quoi. Faut le dire.
Allez, si on continue à parler des joueurs, des transferts et tout ça. Racing, qu'est-ce qui se passe au Racing?
Oui, alors, au Racing, on avait déjà perdu quelques joueurs pendant l'année dernière, et en particulier Léoné Nakarawa, qui avait été sanctionné après un retour tardif de la Coupe du Monde l'année dernière, où j'avais dit ce que j'en pensais parce que voilà, il avait dit en fait il était resté au Fidji pour aider son père à monter la baraque et tout ça, et arrivé ici il s'était fait rouler dessus à juste titre hein, mais voilà, par la réalité contractuelle il s'était fait sanctionner, puis voilà, donc moi je trouve ça complètement désolant ce départ-là, parce que c'était un joueur d'exception, et puis je trouve ça un peu moche de sanctionner un joueur comme ça. Puis on a perdu une autre figure que j'aimais beaucoup, Bentame Ifuna, qui va donc maintenant trimballer ses 160 kilos à Bordeaux. Et quand on va le prendre dans la terrine, bon, on va se rappeler qu'il était quand même pas pourri. Et puis Brice Dulin, qui est parti à La Rochelle, qui était vraiment pour moi un joueur de classe, un garçon extrêmement élégant. Pas si costaud que ça, capacité à remonter des ballons de façon fantastique, et je regrette beaucoup qu'il soit parti. Et puis, par contre, côté arrivé, il y a Kurt Lebil, qui est un joueur vraiment de classe mondiale, qui est un joueur australien. Il y en a un autre, un deuxième ligne, Luke Jones, mais Kurt Lebil, il a quelque chose de particulier. C'est un des rares joueurs, c'est pas le seul, qui a des origines aborigènes et qui joue dans l'équipe d'Australie. Savoir qu'en Australie, le rugby à 15, c'est quand même un sport plutôt pour favoriser, qui est enseigné dans les écoles privées, etc., beaucoup plus que dans les quartiers où il y a des aborigènes. Voilà, c'est toujours sympa de voir ces joueurs-là qui arrivent par leur talent. Et puis, il revendique pas mal cette culture-là. Il a mis une photo de lui avec un drapeau aborigène et le maillot de l'Australie, c'est sympa. En plus, il a quelques casseroles, vu qu'il s'était engueulé avec la directrice commerciale de la Fédé. Il a dû s'excuser après. Une autre fois, il avait eu des problèmes un peu de comportement et tout. Mais ça reste un joueur de classe mondiale. Donc, j'espère qu'il va nous faire rêver. C'est un mec qui peut jouer tous les postes derrière, tellement il est bon. Voilà. Donc, j'espère que Kurt Lebil va nous montrer de belles choses. On a aussi un petit nouveau qui arrive, qui s'appelle Donovan Tao Fifenua, donc encore un Tao, donc un digne, digne représentant de la tribu issue du précurseur wallisien. J'aime le redire parce que c'était un joueur exceptionnel qui s'appelait Willy Tao Fifenua, qui jouait à Grenoble, à la grande époque de Grenoble dans les années 80-90, qui est vraiment le premier des wallisiens à être venu installer cette grande communauté de joueurs mélanésiens de nationalité française dans le rugby hexagonal. Donc on voit que lui et ses frères et ses cousins, ils ont fait des petits, donc maintenant on les voit arriver. Là il y a Donovan, on va voir ce qu'il vaut. Il joue derrière, souvent les Wallisiens jouent devant, lui il joue derrière, mais moi je trouve ça sympa de voir un Tao qui arrive au Racing.
Sorry, but c'est quoi un Wallisien?
Un Wallisien, c'est des habitants de l'île de Wallis, qui est une petite île, une micro-île dans le Pacifique
Fotuna.
Français, pas loin de Tahiti et tout ça.
Ouais, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Wallis. Ok, bah, je regardais ça. Google Maps coming up. Autre nouvelle, il y a aussi Mathieu Bastereau qui revient à Lyon. On a Semira Radra qui est parti de Bordeaux, qui va à Bristol. Donc maintenant, on va tous regarder des matchs de Bristol.
Ça aussi, c'est un départ que je déteste tellement. J'adorais voir jouer.
Ouais, il cartonne déjà. Il y a Rethez à Montpellier. Bon, si on parlait de Clermont, il y a aussi Sébastien Bézier qui arrive. Je pense que lui, il a lancé un mode avec le cheveu tout blond. Là. C'est parce que j'ai vu. Le numéro 9.
C'est à la mode tous les 10 ans. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Et ainsi que Kotaro Matsushima, qu'on a bien regardé pendant la Coupe du Monde du Japon.
Ah, l'ailier?
Oui.
Ah, super. Et moi, j'ai un joueur aussi que je note un peu, pas très connu parce qu'il est jeune. C'est un joueur français qui vient d'Angleterre. C'est un gars qui a une carrière un peu internationale parce que ses parents vivaient à l'étranger, qui s'appelle Thibaut Flamand, qui joue deuxième ligne, qui a un gabarit 2m3, un truc comme ça, qui signe au Stade Toulousain. Il a comme particularité d'avoir été formé à l'ouverture. Et donc, c'est un joueur de ballon assez exceptionnel avec un gabarit de grande as, comme on dit. Donc, je mets une petite pièce sur ce joueur dont, à mon avis, on va reparler. Thibaut Flamand.
Thibaut Flamand, d'accord. Bon, il y avait quelques retraites aussi. Donc, il y avait Brock James. Et franchement, Brock James, je pense qu'il a... Depuis que je suis arrivé en France, il y a 20 ans, il jouait à Clermont, j'ai l'impression. Donc, lui, il prend sa retraite. Clermont ou La Rochelle. Après, Senses Johnston. Donc, on a parlé de Thomas Domingo, qui pour moi était au Dorm Room Fridge. Et Senses Johnston, à 140 kilos. C'est un peu... c'est vraiment... C'est le frigo à le restaurant, quoi, qui est juste énorme. Donc, au revoir, Senses. Merci. Rodrigo Capo Ortega. Le Uruguayen et David Zirakashvili de Clermont.
Ouais, j'aime bien les deux que tu cites, les deux derniers, Capo Ortega, Zirakashvili, c'est des joueurs qui ont marqué la décennie, je trouve, qui s'achèvent. Des joueurs avec une gueule d'abord, une certaine fidélité au club dans lequel ils étaient et une grosse longévité avec peu de blessures quand même. Donc c'est des joueurs, on le voyait tout le temps, t'as l'impression qu'ils sont éternels un peu. Ben non, à un moment, ils prennent leur retraite aussi. Mais super joueurs les deux.
Ouais, un peu triste quand même pour Ortega qu'il n'ait pas, enfin bon après ça c'est le Covid qui a fait ça, mais qu'il n'ait pas pu faire des adieux à Castres correctement parce que
il a dû faire
20 ans.
Mal,
hein. Oui, c'est vrai que c'est plutôt cool. Mais non, et bah, après 20 ans, tu vois, finir sans vraie fin.
Oui, bah, moi aussi, hein, j'ai pas pu faire mes tournois avec mes U12 alors que j'avais une super génération, donc c'est bon.
Ok, ça c'était un peu sur le top 14. Si on parlait de rugby féminin.
L'équipe de France féminine a eu l'occasion de se retrouver au cours du mois d'août avec deux stages de préparation et quelques nouvelles têtes dans l'équipe, mais elles joueront des matchs de qualification pour la Coupe du Monde en octobre et novembre prochain, normalement si tout se passe bien, sachant que la Coupe du Monde étant entre septembre et octobre de l'année prochaine en Nouvelle-Zélande, 2021 donc. Et puis voilà, je vous fais un petit focus sur un superbe article qui est paru dans l'équipe MAG, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Avec l'interview d'une ancienne internationale, d'une deuxième ligne d'ailleurs, vous l'apprécierez forcément vu qu'elle joue à votre poste, mais c'est Assa Koïta qui est aussi une ancienne joueuse de Bobigny du Stade français, mais qui a annoncé sa retraite et qui a un parcours assez particulier, notamment en équipe de France. Et donc voilà, je vous invite vraiment à lire son interview, c'est dans l'équipe MAG de la semaine dernière, et je suis super contente surtout que le rugby féminin soit enfin... mis en lumière dans un magazine, dans un média aussi important, voilà, pour la part de publicité. Et on a aussi le championnat féminin d'élite qui reprendra le week-end prochain, les 5 et 6 septembre, après plusieurs matchs amicaux qui ont eu lieu entre différentes équipes ce week-end et la semaine dernière, avec cette année une nouvelle formule de championnat pour l'élite qui consistera en 4 poules avec derrière des phases de play-off et de play-down en fonction du classement. Et beaucoup de mouvements au sein des équipes cette année d'ailleurs.
D'accord, donc ça veut dire qu'il peut descendre.
Exactement, ça pouvait descendre en fait avant, mais avant c'était 2 poules de 8 équipes et maintenant c'est 4 poules de 4.
C'est un truc que Thierry ne peut pas comprendre, les descentes. Aux États-Unis, tu ne descends jamais, tu montes toujours, tu regardes devant.
C'est
looking forward.
Chaque fois.
Awesome job.
C'est comme un problème de maths. Ouais. tu dis, mais c'est quoi? Mais c'est pas possible. Après, on a quand même, j'ai vu qu'il y avait pour les Six Nations, donc la France plutôt en bonne position. On va dire, bon, ils avaient perdu contre l'Angleterre, mais ils avaient gagné 2 matchs. Il y a quand même les deux matchs, un contre l'Écosse et un autre contre l'Irlande à jouer. Et normalement, il me semble qu'ils sont planifiés.
Alors oui, effectivement, et ces matchs auront lieu les 24 et 31 octobre prochains, si tout va bien.
Donc voilà, donc en fait il y a beaucoup de rugby féminin à venir parce qu'il y a le fin de Six Nations, donc ça c'est chouette. Par la suite il y a les qualifications pour le Coupe du Monde, ça concerne pas la France, mais quand même ça va être en octobre-novembre. Donc si vous êtes fan de rugby féminin, bah, il y a plein de choses à voir très bientôt, donc ça c'est chouette. Nous on est contents aussi parce qu'on a pu parler avec Caroline Beaujard qui joue sur l'équipe de France, et c'était vraiment sympa de partager un peu de temps avec nous. Elle a parlé de son reprise de rugby après le Covid. Donc, vous pouvez écouter cet épisode 25 qui s'appelle La Reprise. Donc, je remercie Caroline et j'espère d'avoir l'opportunité de parler avec elle plus tard, à un autre moment, de parler un peu plus de ce côté rugby féminin. Ok, Alban, si on parlait un peu de Sevens aussi.
Oui, bah alors le Sevens, c'est, ça va être assez rapide, hein, parce que tous les trois premiers tournois qui devaient avoir lieu, donc les trois tournois du circuit international, donc Hong Kong, Dubaï et Cape Town, ont été annulés. Donc voilà. Le rugby Sevens est en pause jusqu'à 2021, et ce qui, à mon avis, va avoir pas mal d'incidence sur les joueurs et les joueuses, évidemment, qui, eux, ont des statuts professionnels et qui ne vivent... en tout cas pour les filles, hein, je parle, mais...
Qui ne tiennent pas à grand-chose.
Exactement, et donc là honnêtement, pour les joueurs et joueuses qui ont suivi tout un programme de reconditionnement avec des tests physiques assez importants pendant l'été, vu l'exigence physique que demande le Seven, mais là, du coup, ça va continuer. Et d'ailleurs, côté filles, il y en a beaucoup qui se sont réinscrites dans des clubs d'élite, dont beaucoup qui sont au club de Chili Mazarin, hein, pour info, voilà. Mais elles sont invitées, en tout cas, à reprendre... un rythme de joueuse, on va dire, de club, alors qu'elle n'avait pas trop cette possibilité-là les années précédentes, vu le temps que prenait le Sevens. Mais voilà, c'est un petit peu le drama du rugby à 7 qui se veut international, et là, tout s'arrête.
Sevens en stand-by alors, mais quand même, on a les JO qui devraient aller pour l'été prochain, si tout se passe bien, en juillet. Donc, j'imagine que début de l'année prochaine, on va commencer à avoir quelques tournois, j'espère, pour qu'ils se remettent en jambes.
Effectivement, et les garçons, ni les garçons ni les filles n'ont à date leur place pour le tournoi olympique à Tokyo. Donc, ils joueront tous les deux des tournois de qualification olympique en 2021. Donc, il faut que le rugby à 7 reprenne.
Petite information d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais quand même Nouvelle-Zélande a gagné les titres pour 2020, les hommes comme les femmes.
Et les filles, ouais.
Ouais, comme si on partait à U21, donc là pour destination, il y avait des victoires contre Italie et Écosse, mais deux pertes aussi. Normalement, il y a un dernier match contre Irlande, mais Théo, j'ai rien vu. Est-ce que ce match va avoir lieu ou pas?
Non, alors est-ce que ça va être comme souvent le même week-end et donc les mêmes conditions que l'Irlande, est donc 31 octobre, peut-être, mais j'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça ait été public, cette information-là.
Affaire à suivre. Est-ce que j'ai le droit de parler de rugby aux States?
On a oublié, Thierry, de dire qu'il y avait un Américain qui arrivait à Montpellier.
Ah bon?
Avec un bon nom d'Américain, il s'appelle Titi Lamositele. mais il arrive là.
Il n'a peur de
donc,
rien.
Donc, c'est un Américain et il est dans l'effectif du Montpellier Héros. Voilà, maintenant tu peux parler du rugby aux US.
Ah, bah c'est chouette. Bienvenue. Ah oui, non, il y a aussi à Lyon aussi.
Mathieu Bastaro, tu veux dire. Mathieu Bastaro.
C'est Joe Tuafete, donc qui c'est le talonneur qui a marqué le plus d'essais depuis toujours. Il a battu Keith Wood, l'Irlandais, là récemment. Donc il était chez les Warriors avant.
Tout à fait raison.
Ah, j'ai vraiment hâte de voir. Hey, welcome to France and welcome to Lyon, man. Cool.
Et si on pouvait, quand ils parleront un peu français, si on pouvait faire une interview au pack de potes des Américains qui joue en France, je pense que ça pourrait faire un bel épisode.
Ça peut être chouette, ça peut être vraiment chouette pour entendre les accents américains.
On va certainement rien comprendre, mais ça va être super.
Et on se moque pas. Allez, si on parlait de rugby aux États-Unis, donc Major League Rugby, en gros, il y a Team USA qui n'ont plus de sous. Ok, ça c'est assez tragique. Il y a Colorado Colorado Raptors qui est dans le Major League Rugby qui a décidé, bon, on ne veut plus l'être. En fait, Colorado, c'est marrant parce que c'est Glendale, Colorado. Et en fait, ça s'appelle Rugby Town. Ça s'appelait comme ça parce que nous, aux États-Unis, on peut faire ça. Il y a une ville qui dit, ben, nous, on a envie d'investir plein de sous dans un truc. Et donc, ils ont investi plein d'argent dans Rugby Town, d'être le capital de rugby aux États-Unis pour finalement pas jouer dans la Major League Rugby. Donc, je n'ai pas trop compris. Après, il y a des Nouveaux-Zélandais qui essaient de mettre en place une équipe à Hawaii. Mais je n'ai pas compris non plus parce que si les NBA et les NFL, ils n'ont pas réussi à mettre une équipe à Hawaii, je ne vois pas comment une équipe de rugby va être capable de faire ça. Bon. Donc, on espère vraiment que le rugby... Moi, personnellement, j'espère vraiment que le rugby réussisse aux États-Unis. Il y a quand même quelques nouveaux stars qui viennent d'arriver. Il y a Chris Latham et Chris Robshaw qui sont arrivés aux États-Unis pour jouer. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé le démarrage de leur saison. Mais bon, on verra.
À suivre.
Allez, pour finir, il y a finalement du top 14 la semaine prochaine. Ça va être chouette. Et avant de parler en particulier des matchs, est-ce que vous avez des sentiments pour qui va gagner pour l'année?
Voilà, déjà, un sentiment, juste un petit mot sur la... C'est triste pour Bordeaux, quoi, ce qui s'est passé l'année dernière, parce que c'était le moment pour eux. Ils étaient sur une très très belle lancée. Là, justement, avec certains départs, je pense que ça va être dur pour eux de refaire la même saison qu'ils ont faite. Donc, voilà. Enfin, c'est un sujet de blague sur les internets, mais les pauvres Bordelais, machin. Et sinon, pour la saison à suivre, évidemment, à ta grande surprise, à votre grande surprise, moi, je ferai particulièrement attention au Stade français.
Oui, voilà.
Pour des raisons évidemment purement sportives. Mais parce que évidemment, Quesada arrive avec sa petite baguette magique d'Argentin, il va nous
Stade français toujours bon pour renaître de ses cendres.
Mais parce qu'il est souvent ensemble, tu vois.
Tel le phénix, et je pense qu'il faut toujours faire attention. Moi, je ferais plus attention à une équipe d'Île-de-France qui s'appelle le Racing. Mais c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'y ai joué. Non, plus sérieusement, je pense que le projet de Lyon continue de monter en puissance.
Oui.
Et je ne suis pas sûr. Tu dis Bordeaux, ils ont pompé le coche. Ils ont quand même toujours Urios aux manettes qui reste un sorcier exceptionnel. Donc pour moi, Lyon et Bordeaux, attention, c'est deux équipes terriblement frustrées de la fin de championnat en queue de poisson l'année dernière qui vont être dures à prendre. D'ailleurs, le Racing, pour la première journée, va jouer à Lyon à 18h samedi et ça va être, ça va pas être simple, à mon sens.
Alban ? Moi, je compléterai par une petite, mais c'est plus une boutade, hein, mais je ferai particulièrement attention à Clermont qui a sorti des nouveaux maillots absolument
dégueulasses.
J'allais dire le mot fantastique est absolument ironique, évidemment, mais ils ont fait un savant mélange du bleu et du jaune pour en faire un vert sur des maillots de Coupe d'Europe. Bref, vous aurez plaisir au moins à fermer les yeux en les regardant jouer.
C'est du bleu l'aune.
Je suis d'accord avec toi, Théo, pour Lyon. J'ai hâte d'avoir Joe jouer, donc go Joe.
Ton compatriote.
Je suis content d'avoir Mathieu Bastaro de retour. Je trouve le coach superbe. Et donc voilà, donc je trouve que c'est une équipe qui va vers l'avant.
Moi, j'ai quand même un problème avec Mignoni, que j'aimais bien aussi comme joueur. Et je suis certain que c'est un bon coach. Mais il a ce défaut qui est « je suis sérieux, donc je ne souris jamais ».
Oui, c'est ça.
Il
se donne à fond.
Oui, il est investi aux entraînements.
Tu vois, il est tellement motivé, il plaque un entraînement, il se fait mal, mais tu vois, il est motivé comme ça, quoi. Tu vois, c'est pas le gros, là, qui sert.
Non, mais ça m'énerve. Mais ça m'énerve pas qu'au rugby, ce truc. Hein. Les gens, je suis sérieux, donc je fais la gueule tout le temps. Vraiment, ça me gonfle. Et je trouve qu'il y a un petit axe de travail là-dessus. Okay.
On lui dira.
Donc Théo, il y a des matchs qui vont démarrer très bientôt, donc ça démarre vendredi 4 septembre.
Oui, alors pour l'instant sur les affiches vraiment sympas du premier jour, tu as Paris-Bordeaux, sauf report, mais pour l'instant c'est pas reporté, le vendredi en ouverture. Ensuite il y a Lyon-Racing le lendemain, sympa aussi, La Rochelle-Toulon. Et puis attention, on a le dimanche soir à 21h un Clermont-Toulouse en entrée de championnat, c'est quand même très sympa. Voilà. Et la semaine d'après le 11, moi j'ai mis une petite coche sur... Bayonne-Clermont, parce que c'est un samedi en fin de journée. Donc là, fin d'été, le stade, on espère, avec un peu de monde quand même, est-ce qu'ils vont arriver à faire une petite Peña Bayona ? C'est toujours sympa, un match à Bayonne en fin d'été, là, en nocturne, au stade Jean Daugé. Donc Bayonne-Clermont, on essaye de regarder.
Oui, et la semaine après ça, donc c'est en trois semaines, le 19 et le 20 septembre, il y a quand même le Coupe d'Europe, les gars, le Heineken Cup et tout ça. Il y a notamment Clermont Racing le septembre 19.
Ces affiches franco-françaises en Coupe d'Europe, j'en peux plus.
C'est chiant, bon. Hein.
Allez, après, il y a Toulouse-Ulster. Voilà,
mieux. Ouais, le retour de la Coupe d'Europe qu'on attend fortement, mais il y a pas que l'Europe, il y a d'autres matchs dont tu joues pas, toi, Alban, la semaine prochaine.
Mais si, bien sûr, tu as bien raison. Avant l'Europe, il y a surtout Meudon où jouera le Stade Français contre le Stade Rennais la semaine prochaine en ouverture de championnat. On a vraiment hâte d'y être, sachant que le Stade Français a gagné son premier match amical la semaine dernière contre Chili Mazarin, donc on espère continuer sur cette lancée.
Ça commence
bien. Vous êtes au bloc, c'est bien. Charlie, toi, tu joues aussi peut-être ?
Ouh là là, oui, moi je peux m'excuser d'ailleurs auprès des écouteurs pour ma voix un peu endormie de ce soir, mais je sors de deux jours de stage, je n'en peux plus. Et ouais, pour nous aussi, la saison reprend, on a des nouveaux coachs, la semaine prochaine on a un match amical, et la saison s'ouvre dans 15 jours du Massif Central contre Bobigny qu'on reçoit. Et qu'on reçoit, qu'on va recevoir dans la gueule surtout parce qu'ils sont assez gros les Bobigny.
Voilà. Ça va faire du petit bois.
Ça va exactement. Il va faire tout noir.
Et grande nouvelle aussi pour moi, parce que j'ai un peu repris le rugby aussi, les gars.
Magnifique.
Oh.
C'est juste le toucher. En fait, j'ai trouvé un groupe de jeunes, ils sont jeunes, ils ont 30 ans, et ils sont gentils, ils me laissent courir un peu autour le terrain avec eux. Mais ça fait vraiment plaisir de retrouver le rugby, un peu de toucher, et des gens, et de bière après, et tout ça. Et c'est vraiment sympa.
La bière d'après. Donc,
vous savez quoi, vous avez tous beaucoup de chance, parce que comme disait Brian O'Driscoll, Bod, playing is the ultimate. Voilà. Et quand tu lui avais posé la question, vous avez arrêté une carrière fantastique, qu'est-ce qui vous manque le plus, etc. Il avait dit, moi, ce qui me manque, c'est de jouer. Je m'en fous de gagner devant 80 000 personnes, les trophées, les machins, tout ça, c'est très, très bien. Mais le plus important, c'est le plaisir que tu as à croiser le regard de ton pote dans le vestiaire après le match, celui qui a tout donné pour toi, t'as tout donné pour lui, et ça, voilà, les supporters, ta famille, ta femme, personne ne peut comprendre ça. Donc, tant que vous pouvez jouer, voilà. Je finirai là-dessus, moi, personnellement.
Je pense que c'est un très bon moyen de finir cet épisode, Théo. Absolument. Merci beaucoup. Bon, je suis vraiment aux anges qu'on se retrouve tous les quatre. Je suis content que le rugby revienne et qu'on a plein de matchs et plein de choses à se dire. Donc revenez, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, d'ici 2 semaines où on va parler un peu de tous ces matchs et parler de des matchs à venir.
Oui, ravi de enfin reprendre le rugby pour de vrai, les vrais matchs qui reprennent, les vraies compétitions qui reprennent. On a passé ce confinement ensemble, toute cette période sans rugby ensemble. Eh bien, on va retrouver le rugby ensemble. Donc n'hésitez pas à toujours continuer à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On aime beaucoup les retours que vous nous donnez. Ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, à réclamer plus ou moins de choses. On attend vos retours.
Et d'ici le prochain épisode et d'ici la reprise de vos matchs respectifs, d'ici la reprise des matchs du 15 de France et des matchs du top 14 que vous attendez, n'hésitez pas à écouter tous nos autres épisodes qui vous attendent bien au chaud.
Allez, merci beaucoup les gars. À bientôt.
Bye bye.
Salut la team, ciao.
C'était un plaisir de vous retrouver. Salut tout le monde.